musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Comme à l'accoutumée, ce soir nous allons découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi aujourd'hui. Et ce soir, notre émission musicale sera consacrée aux musiques judéo-provençales et en particulier aux traditions musicales des anciennes communautés juives du Comtat Venaissin, qu'on appelle les Arba Keilot, soit Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Île-sur-la-Sorgue. Pour nous accompagner tout au long de ce voyage, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Carole Yankou, professeur à l'Université de Montpellier III, et Alain Huet, musicien, fondateur du groupe Nekuda, qui vient de sortir un CD vraiment intéressant sur les musiques et chants des anciennes communautés juives de Provence, dont je vous propose dès à présent d'écouter un morceau. Nous venons d'entendre El Nora Alila du dernier CD du groupe Nekuda, musique judéo-provençale. El Nora Alila, Alain Huet, bonsoir.
Bonsoir.
El Nora Alila, c'est une prière qui clôture la fête de Yom Kippour, hein, la Neila, c'est une prière importante. D'ailleurs, le thème lui-même est assez proche de certains thèmes du monde séfarade en tant que tel. C'est assez étonnant ce que cette musique que vous nous faites entendre, qu'on entend à travers ce disque Musique et chants des anciennes communautés juives de Provence. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce disque?
Bon, vous savez, je suis né en Algérie dans une famille qui entretenait l'héritage andalou. J'ai grandi dans la Provence des années 60. J'ai été tout naturellement amené à m'intéresser au judaïsme provençal. Je suis musicien, saxophoniste de jazz. Je joue également du luth arabe, du oud. J'ai couru les gracieuses synagogues et les vieux cimetières du Comtat, comme vous, messieurs, j'en suis sûr. Tout ceci en étant loin d'imaginer qu'il puisse subsister des traces écrites de la musique des Juifs du Comtat. Alors, ce qui a au départ initié le projet Nekouda, musiques et chants des anciennes communautés juives de Provence, c'est le hasard. Qui, comme chacun sait, le hasard n'existe pas, puisque j'ai trouvé par hasard, dans une gniza, un dépôt de texte sacré hors d'usage, deux pages photocopiées sur papier fax thermique, deux pages de musique sacrée avec mention d'un livre de prière à Carpentras. Ensuite, j'ai consulté à la bibliothèque Ingambertine de Carpentras les relevés de messieurs Jules, Salomon et Mardoché Crémieux, j'inverse pas, j'espère, sur les chants juifs suivant le minhag de la coutume de la Keïla de Carpentras. Et pour ça, c'est la petite histoire. Ensuite, en tant que musicien juif, je suis assez, on va dire, assez fier de participer à la promotion de la culture juive, de la musique juive. Voilà.
Bon, mais c'est vraiment pour nous une découverte, une redécouverte, parce que cette musique des Juifs du Comtat venaissin est en définitive fort peu connue. À ma connaissance, il y a eu un disque qui a été publié il y a quelques années, d'ailleurs par la Fondation du judaïsme français, musique judéo-française des 18e et 19e siècles, dont une partie était consacrée aux musiques des Juifs du Comtat. Mais après, plus rien. Et donc vous, vous arrivez avec votre disque avec une approche vraiment intéressante, on l'entend instrumentale, qui s'inspire aussi de non seulement des musiques provençales, mais de l'Orient, comme vous l'avez dit. Donc d'abord, on vous remercie d'être là ce soir pour faire découvrir à nos auditeurs et auditrices cette musique peu connue. Et on va continuer à écouter un second morceau, Aziyachir Moshe, qui est donc une prière de Shabbat, toujours par le groupe Nekouda. Aziyachir Moshe, office du Shabbat, une prière une prière. On peut se poser presque des questions à Alain Huet. En tout cas, on sent vraiment l'influence provençale. Une question entre nous. Quels sont les instruments qui accompagnent cette prière qu'on vient d'entendre, qui nous font tellement sentir la Provence?
Vous savez, au niveau de l'instrumentation, nous avons choisi de nous inspirer de l'environnement de l'époque. Alors, on a choisi la vielle à roue, qui est l'instrument roi du Massif central et du couloir rhodanien. Le galoubet, le tambourin, l'instrument roi de la Provence. Le oud, qui est l'instrument roi du sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, et des percussions. Percussions et des voix dans le respect de la lettre et de l'esprit des hymnes.
Très bien. Et alors justement, Carl Iancu, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Donc vous êtes historien, professeur à l'Université de Montpellier III, et vous avez travaillé avec votre épouse Danielle Iancu Agou, que l'on salue bien ce soir, sur l'histoire des Juifs de Provence, et notamment donc du Comtat Venaissin. Et pourriez-vous tout d'abord préciser à nos auditeurs pourquoi on parle tantôt de juifs provençaux, tantôt de juifs comtadins? Est-ce que les deux termes se recoupent? En fait, quelle est l'origine de cette communauté un peu particulière qu'on a tendance parfois à assimiler à une communauté séfarade, mais est-ce que c'est vraiment une communauté séfarade?
Est-ce que c'est séfarade ou non? Vous avez raison. La géographie explique l'histoire. C'est vrai qu'avec Daniel, il y a quelques années, nous avons travaillé et publié un livre qui s'intitule « Les Juifs du Midi, une histoire millénaire ». Il s'agit d'un Midi qui va de l'Espagne jusqu'en Italie, de Perpignan jusqu'à Nice. Et donc, effectivement, il y a trois aires géographiques bien précises. Première aire, c'est le Languedoc. Deuxième aire, c'est la Provence, Bouches-du-Rhône d'aujourd'hui, grosso modo. Et troisième aire, c'est le Comtat Venaissin. Alors, ce midi méditerranéen, s'est développée une civilisation spécifique. Et effectivement, nous avons un judaïsme qui est appelé dans les sources hébraïques le judaïsme de la grande provincia médiévale. Mais en fait, donc, effectivement, dans ces trois régions, les Juifs ont développé une culture et des traditions musicales spécifiques, comme je viens de le dire. En fait, tout se passe comme si, jusqu'à la fin du XVe siècle, la Provence est un État, un royaume indépendant. À la fin du XVe siècle, effectivement, la Provence est rattachée au royaume de France, où les Juifs étaient déjà expulsés en 1394, et vont rester une vingtaine d'années. Et quand, à leur tour, les Juifs de France doivent quitter Marseille et Aix-en-Provence, ils vont aller dans le Comtat Venaissin. Mais j'aurais dû d'abord répondre à la première question, depuis quand il y a des Juifs dans le Midi? Nous avons effectivement une trace archéologique exceptionnelle, une lampe à huile appelée la lampe d'Orgon, retrouvée en 1967 pas loin d'Avignon, dans le parage de d'Orgon. Et là, cette lampe à huile présente deux chandeliers qui se touchent par la base, ce qui montre une provenance juive tout à fait certaine. C'est tellement important parce que pour avoir un autre document archéologique concernant une présence juive dans le Midi, il faudra attendre seulement le 7e siècle et ce sera la pierre tombale de Narbonne.
Et de quand date cette lampe?
De la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a quelques historiens qui se chamaillent encore pour savoir si avant ou après, mais ça prouve qu'avant même la destruction du temple de Jérusalem, il y avait ici une présence juive. Selon la légende, les Juifs sont revenus pour la plupart ici dans le Midi français, après la destruction du temple en 70, mais cette lampe a eu le monde qu'ils étaient même avant, ils étaient présents ici avant. Ils ont développé donc effectivement toute une culture, et ce qui me paraît important à propos de la différence entre la Provence et le Comtat Venaissin, c'est que ici dans le Comtat Venaissin, effectivement, à partir de la fin du 15e siècle, début 16e siècle, il rayonnait sur une vingtaine de localités. Et seulement à partir du XVIIe siècle, ils vont être obligés de résider dans quatre communautés, Arba, Kilot, Kodesh, quatre saintes communautés, Avignon, Carpentras, Cavillon et l'Île-sur-la-Sorgue. Il faut d'ailleurs dire que la ville, que le Comtat Venaissin appartient aux autorités pontificales à partir de 1274, tandis que la ville d'Avignon seulement à partir de 1348. Ça veut dire que c'est une enclave, pour vous faire sourire, c'est une sorte de colonie du pape en France jusqu'à la Révolution française.
Ah, c'est une histoire tout à fait passionnante de ces communautés, et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs et auditrices ignoraient jusqu'à présent. On va écouter maintenant une autre prière du Shabbat, un Kaddish, dans une autre version que l'ensemble Nekouda, donc chantée par Adolphe Attia dans ce disque Musique judéo-française des 18e et 19e siècles.
Thank you. Beni alma di berachirute ve'yamich malchute ve'yatzma pokane vikare meshite b'chayechon uveyomechon Niagara, Uvisman Karim, Veimeru Amen. Yitbarach, Vishtabach, Vitbar, Veitroman, Veitnase, Veitach.
Un kadish de Shabbat interprété par Adolphe Attia dans le disque Musique judéo-française des 18e et 19e siècles, publié par la Fondation du judaïsme français en 2003. Alain Huet, l'interprétation du Kaddish que nous venons d'écouter est très différente, plus dépouillée que les morceaux que vous avez enregistrés avec votre ensemble Nekouda. Ceci met bien sûr en lumière la part énorme de l'interprétation, puisque cette musique est aujourd'hui totalement disparue. Puis les pièces qu'on a entendues en plus sont des pièces plutôt liturgiques jusqu'à présent, donc durant lesquelles il est d'usage de ne pas faire intervenir d'instruments. Pendant Shabbat, on ne peut pas jouer d'instruments. Donc la part de l'interprétation au sens large du terme est énorme, c'est-à-dire que on fait un véritable travail d'archéologie, de reconstitution d'une musique qui souvent, en tout cas dans le cadre de la musique du Conta, nous est aujourd'hui parvenue par bribes ou par témoignages, mais dont on ignore en fait vraiment comment elle sonnait. Alors quelles sont les sources sur lesquelles vous êtes appuyé pour restituer ou reconstituer cette musique qui n'est plus du tout chantée aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire.
Oui, d'abord je voulais vous dire un petit secret, c'est que sur notre disque, il y a 19 plages, mais en fait, il y a une plage cachée. Et cette plage cachée, qui est la 20e plage, c'est un kaddish. Un kaddish qui est donné à deux voix a cappella, qui est sur mode très dépouillé, parce qu'un kaddish... voilà. Concernant la façon, l'interprétation, on entend bien Mac Tayar marquer des accords derrière le chazan. Nous, on a choisi une option plus modale, plus basée sur les lignes mélodiques des relevés des messieurs Crémieux, Jules et Salomon Mardoche et Crémieux. C'est une option qu'on a choisie parce qu'on a voulu se rapprocher plus de la forme, on va dire, dans la dimension populaire de cette musique-là. Maintenant, au niveau des sources, vous savez, on peut parler de sources au sens propre, même au sens littéral, parce que cette compilation de relevés des messieurs Jules Mardoché, Salomon Crémieux, faite, je ne sais plus en quelle année, peut-être que
en 1885.
Voilà. Absolument. Cette compilation, c'est d'une richesse incroyable. Leur souvenir, c'est vraiment pour nous une bénédiction. Maintenant, aussi plus près de nous, on a travaillé avec un provençaliste qui s'appelle Frédéric Voulan, que vous connaissez, je pense, qui est une personnalité flamboyante et qui a fait un gros travail autour de la question et qui nous a aidé à poser des musiques sur des textes qui étaient orphelins de leur musique. Je pense à Sime Wamin, et Makovi.
On va en parler là, voilà, tout de suite après. Oui.
Aussi, voilà les sources en gros. Maintenant.
Alors moi, je voudrais juste rajouter, parce que c'est quand même une belle histoire, que vous remerciez, et c'est vrai, on peut vraiment remercier Jules Salomon et Mardoché Crémieux, et aussi le grand rabbin Jonas Veil, le grand rabbin de consistoire israélite de Marseille, qui était à l'initiative de cette première collecte, en fait. Il a envoyé...
Pourtant, c'était un Ashkenaz.
Oui, vous voyez que...
Alsacien.
Il y a même du bon chez les Ashkenaz. Donc, il avait pris conscience, en fait, de la disparition de ces traditions musicales, et avant qu'il ne soit trop tard, et il avait envoyé, donc... messieurs Crémieux recueillir ces chants hébraïques suivant le rite du comtat venessin. Et c'est en fait le seul recueil vraiment qu'on possède. Le reste est assez fragmentaire. Mmh. Mais ce recueil, comme vous l'avez fort bien dit, les mélodies sont données sans aucun accompagnement.
Absolument.
Et donc après, c'est à nous d'imaginer, j'allais dire à vous artistes, à nous musicologues ou historiens, d'imaginer un petit peu comment ça pouvait être chanté.
Alors, il faudra peut-être rendre hommage aussi au Consistoire de Marseille qui a accepté de faire publier cet ouvrage qui reste exceptionnel.
Oui, tout à fait. Justement, Carl Iancu, à propos de ces traces qu'on trouve historiques des contacts entre le consistoire de Marseille, les Ashkenazes, les Comtadins, est-ce que ces Juifs du comtat venessin étaient en contact avec aussi d'autres communautés, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle?
Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc à partir du XVIIe siècle, les Juifs du comtat venessin, qu'on nomme aussi entre guillemets les Juifs du pape, qui étaient sous la juridiction pontificale, effectivement, ils se sont retrouvés seulement dans 4 villes. En fait, c'est des petites communautés, du point de vue démographique, qui n'ont jamais dépassé le chiffre de 2000, peut-être 2500 personnes. Et pourtant, ils ont développé toute une civilisation. Ça veut dire qu'ils avaient une langue à eux, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et en même temps, leur propre rite de prière. C'était ni des séfarades ni d'Ashkenaz, mais ils étaient tout de même plus proches du monde séfarade, même géographiquement parlant, que du monde séfarade, mais ils avaient des liens constants avec des communautés du nord, des Balkans. Par exemple, il y avait tel rabbin Salomon Azoubi qui, au XVIIe siècle, est venu de Sofia pour être rabbin dans le comtat, ou le rabbin Salomon aussi d'Amsterdam. Donc, les communautés étaient vraiment du comtat venu était très lié aussi bien au monde ashkénaze que séfarade, et notamment avec le monde israélien entre guillemets de l'époque, puisque effectivement il avait beaucoup de shadarim, comme on dit en hébreu, shluchim de rabbanan, des envoyés de la Terre Sainte qui venaient qui étaient dans le comtat. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, si on regarde la synagogue de Cavaillon, il y a, dans une fenêtre condamnée, on voit plusieurs troncs des 4 villes saintes d'Israël, Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed, qui parle des liens avec les 4 villes saintes du comtat.
Très bien, mais je vous propose d'écouter justement, pour rentrer encore mieux dans cette Provence, dans ce comtat venessin, un extrait donc de Uncabri, Khadgadia, mais dans la langue justement judéo-provençale dont on parlera après. Khadgadia, Uncabri, une des trois, la dernière des 3 chansons de Pessah, qui est ici chantée dans la langue vernaculaire des Juifs comtadins. Carl Iancu, quelle est cette langue? Est-ce que c'est une langue vraiment spécifique aux Juifs du comtat, ou est-ce qu'elle ressemble beaucoup au provençal parlé aux alentours?
C'est une langue qui ressemble beaucoup au provençal des alentours. C'est une sorte d'hébraïque au contadin, mais quand même, nous avons la plus ancienne mention de cette langue, c'est dans l'écrit de Thomas Plater, qui nous donne un témoignage concernant un rabbin qui faisait des prêches en utilisant des mots languedociens ou de langue entre guillemets romane. En fait, c'est un idiome, c'est une sorte de dialecte, si vous voulez, un mélange de provençal et d'hébreu, mais la majeure partie des mots, c'est du provençal, bien entendu, et un auteur du 19e siècle qui s'appelle Henrez, dans une pièce, donc il nous donne le nom de cette langue qui serait la langue chouadite qui viendrait de l'hébreu yéhoudite, comme on dit la langue juive, yiddish, je parle la langue yiddish, la même chose. Toujours est-il qu'effectivement, le grand spécialiste, enfin le premier qui a écrit, qui s'est penché là-dessus, c'est un juif polonais qui se trouvait pendant la Deuxième Guerre mondiale par hasard ici, c'est Josa Jajkowski, de son vrai nom Friedman d'ailleurs, et c'était son nom polonais, dont son livre a été d'ailleurs traduit récemment en français. Nous pouvons dire qu'on a des témoignages sur la langue chouadite, aussi bien dans les écrits des auteurs non-juifs. Il y a plusieurs pièces satiriques, par exemple le sermon des juifs tel qu'on déclamait jadis à Carpentras le jour des cendres, ou une autre pièce, les juifs du paix, 17e siècle, ou enfin testament de Farfouille, juif de Carpentras, 1774. Et en tant qu'auteur juif, il faut citer Israël Bédarid, qui était un avocat très réputé à Montpellier, originaire de Pesnas, et lui a écrit un ouvrage qui s'intitule Arcanot et Barcanot, ou la Mufila de Carpentras au XVIIIe siècle, lorsque le mot Mufila vient de l'hébreu Mufila, qui veut dire le quartier juif, la rue des juifs en provençal, en hébreu, donc c'est la Mufila. Donc effectivement, voilà, cette langue s'est maintenue. Moi, j'ai eu la chance de connaître Armand Lunel, je lui ai consacré même un livre, et il me disait que ses tantes parlaient encore, donc fin 19e, début 20e siècle, il parlait encore cette langue chouadite. Voici quelques mots, comme par exemple le mot Koudol, Koudol, ça veut dire matzah, le pain azim, ou kimfaros, ou tarafsaline, etc. Ces mots existent encore chez les maquignons karak de Camargue, mais ils ne savent pas que ça vient de l'hébreu. Par exemple, lorsqu'ils veulent acheter un cheval, ils disent si c'est bon, ils disent batao, tov, c'est bon, il faut l'acheter. D'accord. Et si le cheval n'est pas bon, ils disent davar, ça veut dire il vaut shum davar, il ne faut pas l'acheter.
Là, on voit bien, c'est un exemple de l'interpénétration des cultures vraiment intéressante qu'on trouve également dans la musique, Alain Huet. Et d'ailleurs, une des particularités de votre CD, c'est qu'il comporte donc un certain nombre de prières en judéo-provençal, comme le chant de Pessar que nous venons d'entendre, mais également des chants de circoncision et d'autres poésies religieuses, que l'on appelle piyutim. Et selon la musicologue Mac Taillard, qui est originaire de cette tradition contadine, ces piyutim que les juifs du Midi appellent lis obros, je ne sais pas si je prononce bien,
oui,
appartiennent au genre nommé pièce farcie, qui fait alterner donc, je la cite, vers en langue sacrée, ici l'hébreu, et vers en langue vulgaire, ici le provençal. Et je vous propose d'écouter une de ces pièces dites farcies, et que vous nous commenterez après peut-être, Alain Huet.
Bien volontiers.
Mon palais,
Alain Huet, voilà une fort belle chanson. C'est vous qui l'interprétez ?
Oui, avec ma collègue Corinne Drey.
Très, très jolie voix. Et donc, pourriez-vous nous donner quelques détails sur cette chanson ? D'abord, nous rappeler son titre et puis
oui.
Un petit peu... c'est étonnant, on ne sait plus dans quelle langue on est, où on est, qu'est-ce qui se passe ?
Simé Waminet Makovi est un poème liturgique de Saul Cohen. Il s'agit d'un piout en tchouadit et judéo-provençal et provençal, dont la musique originelle est aujourd'hui perdue. Le poème raconte la destruction du temple de Jérusalem et rappelle les conditions d'exil du peuple juif. Il est surprenant de voir à quel point la métrique du texte s'adapte parfaitement sur Pour nous l'anguille, qui est un morceau repris d'une ancienne marche, mais signé d'un compositeur chrétien, Nicolas Saboli. Ce compositeur était titulaire de l'orgue de l'église Saint-Pierre. Cette église jouxtait la rue des Juifs en Avignon.
Oui, j'ai lu dans la plaquette d'ailleurs de votre disque, plaquette fort bien faite, qu'il était possible que les Juifs, ce mur était un peu poreux, il était possible que les Juifs entendent l'orgue et donc ces mélodies à travers les murs qui jouxtaient la carrière, c'est-à-dire leur quartier où ils étaient, et qu'ils aient pu reprendre ces musiques.
Il y a quelque chose comme ça. Disons que en l'occurrence, bon, le poème de Saul Cohen était orphelin de musique, et c'est Frédéric Voulan qui nous a conseillé de le placer sur Simewa Minet, sur Pour nous l'anguille de Saboli.
Alors donc, comme on l'a entendu, on a une alternance de vers en hébreu et en provençal, et une autre catégorie de chants témoigne justement du degré d'intégration des Juifs contadins à la Provence, ce sont les chants de circoncision. 7 jours après la naissance, ou à la veille de la circoncision, les parents et les amis qui venaient féliciter l'accouchée avaient coutume de chanter l'Isobros. Nous allons donc écouter 3 de ces poésies. Le premier, qui s'appelle Kumi, est en réalité une poésie religieuse chantée à la fête de Simrat Torah, et je donnerai une petite anecdote intéressante sur cette poésie religieuse. Et cette prière s'enchaînera directement avec la prière de circoncision Beru Rimatem, que l'on entendra une fois, alors je me suis amusé à juxtaposer dans la version du chant entre Adolf Atia et dans votre version, donc chantée par le groupe Nekuda.
Kumi 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 berina niada temunai kumi venale haladonai yachad revabani berabot usherina uvgile babot solu mesilod betabot amone monai gadenu ladonai beruchim atem kealemunai וברוך הבא בשם אדוני. אלוהים אתם כעולם אולי, ומרות הבא בשם אדוני. ילד היולד יהיה משימנתו, יגדל ויהיה כמו גן רעתו. ין יעלה ויציע ינצל מקטו, אמן כן יעשה אדוני. חלק יותן לנו בנימים, ובימיו יעלה לשלוש גנים, גדולים וקטנים לבית אדוני, וברוך הבא בשם אדוני.
Beruchimatem Beshem Adonai, donc prière de circoncision dans deux versions différentes, celle de Adolf Attia et celle du groupe Nekuda. Prière de circoncision, d'ailleurs, au cours desquelles était présente toute une assemblée. Et on sait qu'on avait coutume de faire venir des musiciens. Donc là, l'instrumentarium qu'on entend est tout à fait plausible. Hein. On faisait venir des musiciens non juifs, d'ailleurs, souvent, un peu l'équivalent des klezmorim, ou des klezmerim, pardon, pour à cette occasion. Et ce qui est aussi une petite anecdote, donc le piyout qui précède Kumi, qui est en réalité plutôt d'ailleurs Kumu, est un piyout qu'on trouve que dans trois communautés juives au monde, à savoir Carpentras, et également Fès et Cochin en Inde. Alors ça, c'est assez incroyable. Comment ce piyout qu'on trouve dans le Kanta Venessa a pu voyager au Maroc encore, ça pourrait se comprendre, mais aller jusqu'à l'Inde, c'est assez amusant de voir la circulation des musiques qui suit en fait la circulation des hommes. C'est peut-être à travers ces fameux chaliarim qui parcouraient les communautés. Qu'est-ce que vous en pensez, Carl Yanko?
Non, c'est les rabbins qui venaient, qui étaient dans le Kanta Venessin, ils se retrouvaient très souvent aussi en Afrique du Nord, notamment au Maroc. Ils allaient vers les Balkans et ils allaient donc jusqu'aux confins de l'Inde et de la Chine. Ça, ceci explique cela, bien entendu. À propos de Lys Obros, je crois qu'il y a un piyout est extrêmement émouvant et qui nous parle de la circoncision d'Abraham. Et là, on voit bien ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ces œuvres farcies. Eftar sefatai berina, kantaren demanadina. Eftar sefatai berina, j'ouvrai mes lèvres avec allégresse. Kantaren demanadina, nous mangerons demain, nous chanterons demain au dîner.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours rimé. Il faut rimer un vers en hébreu avec un vers
en provençal. Et ce piout finit d'ailleurs avec une dernière strophe, absolument tout en hébreu. Bezechut avot eitanim, kabetz nefutzoteinu, amitzkoar verafonim, hachev shivoteinu, vayom yamot mikael, ou batzion lagoel, ou en français, par le mérite de nos patriarches, rassemble nos dispersés, puissant par la force et grande en vigueur, ramène aux exilés. Et un jour sera debout Michaël et viendra à Sion le Rédempteur.
Amen.
Amen. Et donc ces poésies aussi sont parfois pleines d'humour. Ainsi, il y a un piyout de circoncision. Je crois que j'ai lu dans la plaquette de votre livre, on date du début du 19e siècle.
Qui est de facture marseillaise. Il est très marseillais en fait.
Ah bon, d'accord. Alors écoutez, quand Frédéric Voulan nous l'a fait découvrir il y a quelques années, il n'était pas encore au fait de l'origine de ce piyout. Mais en tout cas, ce piyout ne manque pas d'humour puisque, si vous me permettez, je vais traduire le début de ce piyout. Donc rappelons que c'est pour la circoncision, pour la naissance d'un enfant. Et il dit, je traduis, « Messieurs qui m'entendez, vous n'êtes pas sourds. On dit que l'été, il fait grand jour et que l'hiver, il fait de longues nuits pour s'amuser à certains jeux. Je ne vais pas en dire plus, etc. etc. » Et comme par hasard, on enchaîne avec la naissance de l'enfant. Donc c'est un petit peu coquin, un petit peu osé. Et je vous propose tout de suite d'écouter donc deux versions de ce piyout.
Disons que l'estio fait grand jour et que l'hiver fait de longues nuées. Per s'amuser à certaines jouets, l'on ne peut pas dire que pour y s'en vivre. Devez-le sachez, devez-le sachez. Adam est sesta le premier à escalade sur le premier. On mangea le fruit défendu. Adieu le végé fugué confondu. Alors de placenso, Moses a silencio. Mais nous a perdu, mais nous a perdu.
Disons que l'Estéo fa grand jour, que l'hiver faille des longues nuits, faire s'amuser à certains jouets. Nous voulons pas dire que pour y instant rire, devez-vous sachez, devez-vous sachez. À ta reste à vous premier, à escala sur ce premier, la matière ou fut dépendue, je ne veux gay, peu gay confondu. Alors déplacez son mouton sa sieste, mais nous a perdu, mais nous a perdu.
Voilà un chant de circoncision bien gaillard, Messias Cantandes. Oui, Carole Bianco, vous étiez en train de nous raconter une anecdote sur...
Absolument, il faut rendre un hommage appuyé à l'abbé Raymond Boyer, directeur de recherche au CNRS aujourd'hui à la retraite. C'est lui qui a recueilli de la bouche de l'un des descendants des Juifs contadins qui s'appelait Fernand Cohen, fils de Gad Cohen de Marseille. Et c'est grâce à l'abbé Boyer que nous avons effectivement le texte de
ce piout. Frédéric Boulan, dont on parle depuis le début de l'émission, a continué la traduction des autres couplets qui n'étaient pas traduits. Donc, c'est une collaboration fructueuse entre les deux. Carole Liancou, toutes ces musiques que nous entendons depuis le début de cette émission témoignent de communautés parfaitement structurées. Les Juifs ont vécu en Provence pendant presque 2000 ans, on peut le dire, puisqu'on a trouvé cette lampe.
Ah oui.
Alors, comment peut-on expliquer la disparition aujourd'hui et aussi rapide de cette communauté au XIXe siècle?
Il faut dire aussi que, on n'a pas eu le temps de développer que les Juifs, dans ces quatre carrières, ils ont vécu une vie spécifique, mélange de tolérance et d'intolérance. L'intolérance se manifestait d'abord dans le ghetto condamné qu'on appelle la Moussila. L'intolérance était aussi le chapeau jaune. Ils étaient obligés de porter un signe distinctif, le chapeau jaune. Et lorsque, à la fin, donc avec la Révolution française, donc ces discriminations disparaissaient, les vieux juifs ne voulaient pas se séparer du chapeau jaune, ils croyaient que ça faisait partie du costume juif. Voilà comment un élément de discrimination est devenu un moyen identitaire. Et donc, en même temps, ils devaient prêter un serment spécifique, moré et judaïco, qui était infamant par la forme et le contenu. Il y avait aussi des discriminations pour ce qui est de certains aspects des activités économiques. Et alors, effectivement, lorsque la révolution arrive, c'est une sorte de libération. Le Comtat vénitien et l'Avignon vont redevenir français. Et automatiquement, effectivement, les Juifs vont... Ceux qui sont restés, d'ailleurs, très peu dans les carrières, entre-temps, il y a eu déjà une diaspora des Juifs contadins dans les environs, dans les régions voisines, comme à Montpellier, comme à Nîmes, même à Marseille et Aix-en-Provence. Et petit à petit,
Paris,
ils sont
aussi
intégrés. Et ils ont sont intégrés, ils ont donné ensuite des grands noms, comme par exemple Adolphe Isaac Crémieux, qui va devenir ministre de la Justice en 1948.
On peut dire qu'à peine, à peine sortis de la carrière, ils sont entrés dans la carrière au sens où notre hymne national l'entend.
Exactement. Alors, donc il reste des noms prestigieux et il nous reste aujourd'hui, heureusement, ces musiques, en même temps les prestigieuses synagogues du Comtat.
Oui, c'est une histoire absolument passionnante et c'est toujours frustrant dans le cadre de cette émission de devoir aller aussi vite. Mais je vous renvoie aux ouvrages écrits donc par notamment Daniel et Carole Liancou sur cette histoire des Juifs du Comtat vénitien. Cette émission ne serait pas complète si elle n'évoquait pas de façon assez rapide la pratique des musiques savantes qui se sont développées, enfin ces musiques savantes dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Selon l'historien René Moulinas, vers 1745, il y avait plus de 50 familles de la carrière de Carpentras qui utilisaient régulièrement les services de maîtres de danse, de musique ou de chant chrétien. Et déjà vers la fin du XVIIe siècle, un notable juif du comtat venaisin, apparemment très riche, qui espérait fortement la venue d'un héritier mâle, a commandé au compositeur chrétien Louis Saladin un divertissement pour une circoncision, pour soliste, chœur à quatre voix et orchestre, le Canticum Hebraicum, dont je vous propose d'écouter dès à présent un large extrait. Yeled Ayulad, un extrait du Canticum Hebraicum de Louis Saladin dans une version dirigée par Avner Itai, d'après un CD qui s'appelle Synagogal Music in the Baroque. Yeled Ayulad, c'est justement l'enfant qui est né. Fallait quand même avoir sacrément d'optimisme pour commander une œuvre d'une telle ampleur à un compositeur, vu qu'à l'époque les échographies n'existaient pas. Donc ça montre l'optimisme de cette société cantadine. Écoutez, cher ami, notre émission touche malheureusement à sa fin. Je voulais remercier infiniment nos invités de ce soir, donc Monsieur Carole Yanco, Monsieur Alain Huet, pour être venus spécifiquement de Montpellier, donc ils ont fait le déplacement.
Et de Marseille.
Et de Marseille également, pardon. Et donc pour nous faire connaître un peu plus cette communauté des Juifs du comtat venaisin et leur musique. Le mois prochain, nous aborderons l'œuvre méconnue de Henri Hertz, compositeur, pianiste virtuose et facteur de piano renommé, avec la musicologue Laure Schnapper. Mais si vous souhaitez réécouter cette émission ou les précédentes, réagir aux propos de nos invités ou proposer des thèmes pour nos prochaines émissions, vous pouvez nous contacter sur le site du Centre français des musiques juives. Je rappelle l'adresse www.cfmj.fr ou par téléphone au 09 77 71 96 57. Je répète, 09 77 71 96 57. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny.